un panorama rapide sur l'évolution et la compréhension qu'on peut en avoir. Alors l'évolution biologique, hein, l'évolution des êtres vivants. Je ne parle pas de votre évolution personnelle ou de l'évolution des continents à la surface du globe. Je parle donc de l'évolution biologique. Cette évolution vous concerne-t-elle? Est-ce que vous la voyez après tout? C'est pas évident. Moi, le matin, quand je me lève, je vois le soleil qui se lève à l'est. Et le soir, quand je me couche, bah, le soleil il se couche à l'ouest. Bah, pour mes yeux, le soleil tourne autour de la Terre. Ah bah tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui disent le contraire. Ils disent que c'est plutôt la Terre qui tourne sur elle-même et qui explique ce phénomène apparent. Le rôle des sciences, justement, je suis scientifique de profession, et c'est au nom des sciences que je suis ici. Les sciences de l'évolution vous donnent à peu près cette image, c'est-à-dire elles vont vous raconter un monde des êtres vivants dont vous avez l'impression qu'il vous échappe. C'est vrai, après tout, une vache, ça reste une vache. Sur 30 générations, une vache, ça reste une vache. Une girafe, ça reste une girafe. L'évolution, on la voit pas. Ah bah c'est peut-être ça qui est un petit peu ingrat, justement. C'est que, comme vos yeux vous enseignent que le soleil se lève à l'est et que le soir il se couche à l'ouest et donc que le soleil tourne autour de la Terre, et bien l'évolution, il n'y a pas lieu d'en parler puisque de toute façon on ne la voit pas. D'ailleurs, les hommes dans leur histoire ont mis beaucoup de temps à s'apercevoir du phénomène de l'évolution biologique. Parce que ce phénomène se réalise dans une fenêtre qui n'est pas propice à vos sens. Vos sens ne détectent pas l'évolution. Pourquoi? Parce que pour des êtres vivants qui sont de grande taille, il faut des temps de génération longs, et que le temps qu'il faudrait pour voir des populations manifester des transformations spectaculaires, eh bien ce temps est beaucoup plus long que le temps de la vie humaine. Et donc le temps est trop long pour les espèces de grande taille pour que vous puissiez en voir quelque chose se transformer dans les populations. Et puis de même, effectivement, on a aussi des êtres vivants à génération courte, temps de génération courte, un temps de génération de 3 semaines chez des petites mouches, ou des temps de génération d'une demi-heure chez des bactéries. Alors là, oui, effectivement, en laboratoire, vous voyez l'évolution. Vous la voyez sur des organismes à temps de génération très court, parce que vous avez plein de générations à votre disposition pour voir de la transformation. Mais le problème, c'est que ces bêtes-là, elles sont trop petites pour que vous puissiez les voir à l'œil nu. Et il a donc fallu attendre très longtemps. Déjà, il a fallu attendre qu'on invente des microscopes, hein, c'est-à-dire finalement seulement la fin du XVIIe siècle, hein, pour arriver à voir des êtres vivants qui échappaient à nos yeux jusqu'alors. Et puis ensuite, avoir l'idée, accepter cette idée que le monde vivant n'est pas immuable. Le monde vivant, même si des chats font des chats et les chiens font des chiens, le monde vivant, à travers un certain nombre de manifestations qu'on avait refusé de voir, eh bien on s'aperçoit qu'il n'est pas stable. Alors, quel est ce phénomène dont je viens de dire qu'on refusait de le voir? Eh bien, c'est tout bête. C'est cette simple idée que le fait qu'il n'y ait pas deux personnes dans cette pièce qui aient le même visage, ça c'est un fait d'évolution. Alors c'est pas comme ça qu'on vous l'enseigne, peut-être, mais dans l'histoire des hommes, ça a été déjà ça, c'est-à-dire accepter de voir que parmi les êtres vivants qui font des petits ensemble, il y a de la différence, il y a du changement, il y a de la variation. Et est-ce que vous portez votre attention finalement sur ce qui est commun quand vous interprétez le vivant, ou est-ce que vous portez votre attention sur ce qui varie? Eh bien, le contexte intellectuel dans lequel les hommes étaient jusque 1850 à peu près, c'était finalement ne porter son attention que sur ce qui était stable, en fait, porter son attention sur l'ordre et ne pas regarder le désordre, ce qui nous apparaissait comme du désordre, c'est-à-dire finalement le fait qu'il n'y ait pas deux personnes dans la salle qui aient le même visage, le fait qu'il y ait des chats blancs, des chats noirs, des chats roux, des chats poils ras, des chats poils longs, le fait qu'il y ait de la variation était attribué avant 1850 à du désordre. Ce qui comptait, c'était l'ordre. L'origine de l'ordre, à ces époques-là, au XVIIIe siècle par exemple, l'origine de l'ordre, elle s'inscrivait dans le discours religieux. Au XVIIIe siècle, les sciences ne sont pas encore complètement émancipé du devoir dire religieux. Cette émancipation, elle se produit justement pendant ce siècle passionnant qu'est le XVIIIe, où les sciences commencent à prendre leur autonomie et n'expliquer les natures que par les seules ressources de la nature. C'est-à-dire que le monde naturel va s'expliquer par lui-même. Enfin, comment, c'est une façon de le dire. Notre rationalité ne va utiliser que des arguments naturels pour expliquer la nature et non plus des arguments d'origine surnaturelle. Alors ça, c'est quand même un passage important. Ça n'affecte pas que la biologie, ça affecte aussi les sciences de la Terre. Je vous rappelle quand même que Buffon, l'intendant des Jardins du Roi au milieu du XVIIIe siècle, faisait des expériences scientifiques sur l'âge de la Terre dans ses forges en Bourgogne, à Montbard, et que Buffon, avec ses expériences qui consistaient à porter une sphère de composition connue et de diamètre connu à incandescence, dans l'hypothèse où l'origine de la Terre avait été justement dans le passé au cœur du Soleil, la Terre à son origine avait dû être incandescente, portée à incandescence justement parce que son origine était solaire. Eh bien, Buffon mesure le temps qu'il faut pour une sphère de diamètre contrôlé et de composition contrôlée d'un état incandescent. Il mesure le temps qu'il faut à cette sphère pour qu'elle refroidisse d'un état incandescent jusqu'à une croûte à une température ambiante à peu près. Et puis c'est ce qu'on appelle un modèle de Terre en fait. Et puis ensuite il fait une règle de 3, il voit le temps qu'il faut à cette sphère pour refroidir, et il se dit, je connais le diamètre du globe, le vrai globe, le nôtre, et avec une règle de 3 il assigne, enfin je fais simple, l'expérience est simplissime, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la démarche, c'est l'autonomie en fait, la prise d'autonomie. C'est qu'il atteint un âge pour la Terre qui est déjà en 1751 intolérable pour les autorités religieuses de l'époque. Alors il atteint, je crois, quelque chose comme 45 000 ans, si je me souviens bien. Enfin, c'est ridicule aujourd'hui, on est à 4,6 milliards d'années aujourd'hui pour l'âge de la Terre. Mais ce n'est pas le résultat qui compte. Si l'expérience est naïve, ce n'est pas ça qui est grave finalement, c'est surtout la prise d'autonomie. Et donc, en 1751, je vous rappelle tout de même que la Sorbonne, les théologiens de la Sorbonne, ceux qui sont là pour garantir, si vous voulez, l'intouchabilité du texte sacré, j'entends, convoque Buffon, et Buffon doit publiquement récuser les résultats de ses expériences, parce qu'on ne porte pas, à cette époque-là encore, les scientifiques ne sont pas censés produire des affirmations qui seraient irrecevables pour une religion particulière, en l'occurrence ici le catholicisme en France. Ça, c'était une époque où le pouvoir religieux et le pouvoir politique étaient mêlés. Mais ça n'est plus le cas en France aujourd'hui. Et sans parler du cas en France aujourd'hui, même le contrat des scientifiques, il va prendre autonomie à la fin du XVIIIe. Les scientifiques, à la fin du XVIIIe, doivent expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Du moins, c'est le contrat de travail. Alors justement, le monsieur que j'ai montré ici, en haut à gauche, ce monsieur qui s'appelle Charles Darwin, qui est anglais, travaille dans le nouveau contrat, c'est-à-dire on explique les phénomènes naturels en ayant recours qu'à des phénomènes naturels. Si vous souhaitez mobiliser des explications extra-naturelles, vous pouvez toujours le faire, mais ça sera dans le registre de la sphère privée, dans la sphère publique. Dans les résultats collectivement partagés par les scientifiques, on explique le monde naturel qu'avec le seul monde naturel. Alors, dès lors, il va falloir trouver d'autres explications que la création divine pour expliquer la diversité des espèces. Dès lors, il va falloir s'intéresser autant à l'ordre qu'au désordre. Parce que justement, pourquoi est-ce que les scientifiques s'intéressaient à l'ordre ? C'est que l'ordre était tenu comme l'expression d'une volonté divine. Mais si la volonté divine n'est plus dans le contrat d'explication des scientifiques, c'est peut-être dans le contrat des théologiens, c'est peut-être dans le contrat des philosophes, mais la profession des scientifiques s'autonomise par rapport à ça. Si les explications extranaturelles ne font plus partie du contrat, quelle explication naturelle doit-on rendre à l'ordre ? Et pas qu'à l'ordre, au désordre aussi. Justement, ce monsieur Darwin que je montre ici s'intéresse au moins autant au désordre qu'à l'ordre. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des communautés de reproduction dont j'ai l'impression qu'elles sont étanches les unes aux autres, mais il y a aussi, à l'intérieur d'une communauté de reproduction, il y a de la variation. Et cette variation, en fait, elle provient tout simplement du changement de la matière vivante. Quand je dis du changement, j'ai presque envie de vous dire de l'altération. La matière vivante, c'est comme toute matière, elle s'altère. Elle est modifiée. Elle est modifiable et modifiée. Après, est-ce qu'elle s'altère au point de ne pas permettre à l'être vivant de vivre? Ben oui, ça arrive. Les fausses couches chez les mammifères, ça arrive. Est-ce qu'elle s'altère au point de produire des êtres non viables, ou presque viables, ou viables, mais alors avec une quantité de souffrance, bref. Ben oui, effectivement. On a des traités sur les monstres au XVIIIe siècle, où on voit bien que la matière vivante, d'ailleurs ça pose de grands problèmes philosophiques, l'interprétation des monstres. Aujourd'hui, avec l'échographie, vous n'en voyez plus de monstres. Quand il y a une malformation embryonnaire, on fait une intervention volontaire de grossesse. Mais au XVIIIe siècle, on accouchait encore fréquemment de ce qu'on appelait des monstres, entre guillemets, c'est-à-dire en fait des malformés. Et il y avait des débats extrêmement denses à l'Académie des sciences, à la charnière 17e, 18e siècle, pour interpréter le désordre dans un contexte où l'ordre dans le vivant était le pur produit de la volonté divine. Comment? Mais le divin produirait des monstres. Comment ceci peut être compris et tolérable? Alors Darwin s'intéresse autant à l'ordre qu'au désordre, et c'est ce qui fait qu'il va découvrir, finalement le carburant de l'évolution, qui est cette altération toute bête du vivant. Le vivant se modifie parce que la matière n'est pas stable. C'est vrai pour les minéraux, c'est vrai pour les métaux, c'est vrai pour toute matière dans l'univers. La matière est altérable, et après tout, tant mieux, parce que si la matière n'était pas altérable, d'abord elle ne serait pas de la matière. La matière, elle se définit du fait qu'elle puisse changer, justement. Et puis les êtres vivants, on n'en verrait pas toute la variation qu'il y a dans cette pièce ici. Hein. Alors, les questions de fond de l'évolution, celles auxquelles elles doivent répondre dès le 19e siècle, et encore aujourd'hui, c'est d'où vient dans les êtres vivants, puisqu'on est en biologie, là, hein, on est dans les sciences naturelles, d'où vient l'adéquation, l'harmonie apparente entre les formes et les fonctions dans la nature? Ah, que la nature nous semble bien faite. Vous vous rendez compte, le rayon de courbure de votre cristallin, c'est vraiment pile poil ce qu'il lui faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Quelle merveilleuse harmonie, quand même, dans le fonctionnement de l'organisme. Et cette harmonie, elle était précédemment interprétée comme justement la volonté venant d'une transcendance qui avait tout réglé dans la nature et qui prévoyait le bon fonctionnement des organes. C'est pas décoratif de rappeler ça. C'est peut-être de l'histoire des sciences, ça vous paraît peut-être d'être des vieux machins, mais je vous rappelle que c'est toujours les mêmes vieux arguments qui reviennent. Que croyez-vous que font les think tanks conservateurs américains aujourd'hui? Think tank, ça veut dire boîte à idées. Les partis politiques ont des think tanks qui demandent à des intellectuels de justifier leur prise de position politique. À Seattle, aux États-Unis, il existe un think tank dont l'idée est de réintroduire le créateur en tant qu'explication scientifique pour justifier l'adéquation des formes et des fonctions dans la nature et pour justifier les prises de position législatives qui permettraient éventuellement de punir dans certains États américains des gens qui utiliseraient leurs organes non conformément à ce que le prétendu créateur aurait voulu. Si je vous le fais en résumé, il y aurait des états où vous pourriez même plus vous décoter le nez avec votre doigt parce que la narine n'a pas le diamètre requis pour recevoir votre index. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on rigole, mais pensez ce que ça peut signifier en termes de législation antiféministe ou en termes de législation concernant l'utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, la législation contre l'homosexualité ou ses manifestations les plus voyantes, la législation contre l'enseignement de l'évolution à l'école, car si vous enseignez l'évolution à l'école publique aux États-Unis, vous enseignez une science qui ne contrevient pas volontairement à un créateur, mais qui est perçu comme tel. Et donc, il y a des parents d'élèves qui exigeraient qu'effectivement ne soit pas enseignée l'évolution en biologie. Alors, l'origine des formes, de l'adéquation entre les formes et les fonctions, c'était un argument théologique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Charles Darwin a grandi là-dedans. Il a fait ses études à Édimbourg, notamment, pas seulement à Édimbourg, mais notamment à Édimbourg, où il a reçu le discours théologique de William Paley, qui est la personne à l'origine d'une explication divine de l'adéquation entre la forme et la fonction. D'ailleurs, l'harmonie apparente était même un argument en faveur de la gloire du Créateur. Darwin, en tant que scientifique, dans sa carrière, va trouver une autre explication, mais naturaliste ou naturelle, si vous voulez, à cette adéquation. Ça, c'est la première chose qu'il faudra expliquer. Le défi, c'est d'expliquer cela avec des arguments scientifiques. L'origine des communautés de reproduction. Eh oui, d'où vient le fait que quelque part, bah, j'ai des éléphants qui font des éléphants, des rhinocéros qui font des rhinocéros, et puis que entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire que je n'ai pas un machin qui soit à moitié éléphant, à moitié rhinocéros. J'ai donc des communautés de reproduction qui sont étanches les unes aux autres. D'où vient l'étanchéité des communautés de reproduction? Et d'où vient le maintien de cette étanchéité, bien que justement, je vois à l'intérieur de chacune une grande variation? Darwin prend la variation au sérieux. Là où ses prédécesseurs la tenaient pour négligeable, lui, il la prend comme le fait premier. Comment se fait-il que vous faites des petits ensembles, enfin, vous êtes le produit des gens qui ont fait des petits ensembles ici, et pourquoi vous n'avez pas tous la même tête? Pourquoi n'avez-vous pas tous la même tête? Ça, c'est la question fondamentale qu'on peut se poser en biologie. Et dernière question, il y a un ordre apparent dans la distribution des organes. Et si vous regardez un petit peu la diversité des animaux, vous vous rendez compte que tout ce qui a doigt a déjà un bras. Vous ne trouvez jamais de doigt au bout de l'épaule, là. Tout ce qui a bras a déjà vertèbres. J'ai pas de bras qui se balade chez un animal qui n'aurait pas déjà les vertèbres. Tout ce qui a vertèbres a déjà crâne. Il n'y a pas d'animal qui aurait des vertèbres sans avoir un crâne. C'est pas le bazar. Ça semble pas, en tout cas, être le bazar dans la distribution des organes à parmi les espèces. Donc il semble y avoir une distribution. D'où vient cette distribution? D'où vient cet ordre apparent? Alors, pour les prédécesseurs, encore même chose, toujours le même argument, pour les prédécesseurs, comme Linné par exemple, ce grand classificateur du début du XVIIIe siècle, Carl Linné, botaniste suédois, qui a fixé d'ailleurs un certain nombre de cadres classificatoires, pour lui, il n'y a pas de doute, l'ordre apparent dans la distribution des organes, c'est le plan divin de la création. Toutes les espèces ont été faites en une seule fois, mais là on est dans un discours théologique, hein, je le répète, c'était l'époque. À l'époque de Linné, c'était l'époque où les sciences et le discours théologique étaient en continuité. Donc il n'y avait pas de différence, si vous voulez, marquée. Mais à l'époque de Darwin, les choses ont changé, donc vous l'avez déjà compris, le recours à une entité extra-naturelle n'est pas dans le contrat. Et donc, il faut changer d'explication. Alors dans ce cas-là, quelle peut être l'origine naturelle de la distribution de ces organes? Eh bien justement, ça va être... L'origine de l'ordre apparent, c'est précisément un ordre historique, c'est l'ordre de l'histoire. Si vos doigts ne se trouvent que chez ceux qui ont déjà un bras, c'est que les doigts sont apparus postérieurement au bras, chez ceux qui ont le bras. Si ceux qui ont bras ne se trouvent pas en dehors de ceux qui ont vertèbres, c'est que le bras est apparu postérieurement dans le temps à la vertèbre, chez ceux qui avaient déjà des vertèbres, etc., etc. L'ordre d'apparition des organes dans l'histoire du vivant, encore faut-il qu'on accepte que le vivant puisse avoir une histoire. Bon, là, il se trouve que c'est le cas chez Darwin. C'est l'histoire du vivant qui explique finalement l'ordre dans lequel les organes apparaissent, quelque part, régit le degré de généralité dans la distribution de ces organes. Plus l'organe est largement distribué, plus il est ancien dans l'apparition, plus l'organe est restreint dans sa distribution et plus l'organe est apparu récemment. Donc les questions sur les origines en biologie ont toujours été des questions chaudes. Pas pour les scientifiques. Les scientifiques, ils sont conscients de leur contrat. Ils travaillent dans leur contrat. Ils ne font pas autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Ils expliquent la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Si vous voulez croire en autre chose, ça vous regarde, mais c'est à la maison. Dans le champ public, dans le champ collectif, de validation collective des savoirs, le contrat, c'est d'expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Ces questions sont chaudes, non pas chez les scientifiques, elles sont chaudes justement dans la réception dont elles sont l'objet dans la société. Effectivement, l'évolution, y a-t-il un problème? Pourquoi on parle d'évolution encore aujourd'hui? S'il n'y avait pas de problème social avec l'évolution, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que pour moi, en tant que scientifique, dans ma vie de scientifique, pour moi, l'évolution, il n'y a pas de doute, tout va bien. On est dans un cadre théorique extrêmement cohérent. On l'améliore, évidemment, parce que tout cadre théorique est perfectible, que ce soit, c'est vrai en biologie, c'est vrai en chimie, c'est vrai en physique. On n'a pas de problème, nous, les scientifiques, avec l'évolution. Pas plus qu'avec n'importe quel autre phénomène dans les sciences de la Terre, ou en physique, ou en chimie. S'il y a problème, c'est que l'évolution s'énonce par une profession à l'extérieur de la profession, sur un terrain qui est déjà occupé. Si je vous parle, par exemple, de la loi de Bernoulli, ou je sais pas moi, la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, tiens, vous avez appris ça, non? Bah, tout le monde s'en fout. Vous dites ça dans la rue, tout le monde s'en fout. La loi des gaz parfaits, ça remet rien en cause. Les chimistes, en général, ils sont peinards. Que vous décriviez un modèle d'atome dans la rue, ça va choquer personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vous le fais vite, là, mais... Si vous parlez d'évolution, ah, ça coince. Pourquoi ça coince? Parce qu'en fait, l'évolution propose, sans intention, je dis bien, c'est important, sans intention métaphysique. Elle propose une origine naturelle des espèces, une origine seulement naturelle de l'homme, une origine naturelle des comportements humains et même de la morale. Et ça, on le trouve déjà chez Charles Darwin entre 1859 et 1871. Et quand vous proposez une origine naturelle, parce que vous n'êtes pas intentionné dans le surnaturel, votre contrat, c'est de ne proposer qu'une origine naturelle. C'est compris parfois, en dehors des sciences, comme étant une volonté de vouloir régir le domaine métaphysique. C'est pas la volonté collective des scientifiques, c'est peut-être la volonté de quelques-uns individuellement, mais en tant que collectif professionnel, ça n'est pas le problème. Nous ne sommes pas métaphysiquement intentionnés. Nous donnons des réponses naturelles aux phénomènes naturels parce que c'est le contrat de travail. Et après, alors comme dirait l'autre, arrangez-vous avec ça. Le registre des savoirs n'empiète pas sur le registre des significations. En tout cas, tel est le contrat professionnel du métier. La signification que ça a pour vous, ça ne me regarde pas en tant que scientifique professionnel. Par contre, un savoir, je suis obligé de vous expliquer ce que l'on sait et pourquoi on le sait. Donc s'il y a quelque chose d'important à comprendre, et c'est pas spécifique à l'évolution, c'est qu'un savoir se définit par rapport justement au fait qu'il se justifie. Un savoir se justifie, je sais ce que je sais pourquoi je le sais. Une croyance ne se justifie pas nécessairement. Le plus souvent d'ailleurs, elle se dispense d'avoir à être justifiée. Hein. Donc moi, ma profession, c'est de produire des savoirs. Je vous dis pourquoi on sait les choses, ce qu'on sait, pourquoi on le sait, mais ce que ça signifie pour vous, ça ne me regarde pas. Alors on y reviendra à la fin si vous voulez. Alors, parlons d'évolution maintenant. Après ce long préambule, parlons d'évolution. Au sein des espèces, il y a de la variabilité. J'ai commencé par ça. Enfin, avec Darwin, on accepte de voir que la matière vivante est altérable. Enfin, j'exagère un peu, Linné le savait déjà, mais il tenait ça pour négligeable. On porte toute son attention sur l'altération. Tous ces individus font des petits ensembles, et pourtant il y a de la variation. D'où vient la variation? Bah, c'est qu'il y a l'altération du vivant, traduit son aptitude naturelle à varier. Il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage. Deuxième constat que fait Charles Darwin, mais il n'y a pas que lui, on le fait toujours ce constat, l'aptitude naturelle à utiliser cette variation pour en faire une sélection artificielle. En fait, cette variation, elle se laisse sélectionner. Darwin se documente beaucoup auprès des horticulteurs et des éleveurs. Et il voit bien que les horticulteurs et les éleveurs, par des croisements sélectifs, arrivent à emmener les espèces à peu près où ils veulent. Notamment, vous voyez, en 11 000 ans, il a fallu juste 11 000 ans pour passer du loup à des choses comme ça. Ça vous montre bien qu'il y a une plasticité dans les espèces et que cette variation, elle peut donner lieu à des manifestations physiques très différentes du point de départ. Hein ? Les espèces se laissent sélectionner. Alors, Charles Darwin se demande, mais n'y aurait-il pas dans la nature, s'il faut expliquer la nature avec les ressources de la nature, n'y aurait-il pas finalement dans la nature des agents ou des facteurs ou des paramètres qui joueraient comme l'horticulteur ou l'éleveur est capable de le faire? Y a-t-il des facteurs qui joueraient comme? Troisième constat, les espèces ont le potentiel, toutes, elles ont le potentiel à pulluler. C'est pas compliqué, l'expérience le montre, l'expérience au laboratoire ou l'expérience en grand, c'est-à-dire quand on exporte des espèces en dehors du continent d'origine, sur des îles ou sur des continents, le 19e siècle est très riche en exemples, on constate qu'une espèce qui arrive dans un milieu qui n'est pas le sien, soit elle ne s'acclimate pas et elle disparaît immédiatement, soit elle s'acclimate, et auquel cas, alors si elle y arrive à s'acclimater, là pour le coup elle pullule. Un épisode très connu, les lapins en Australie, vous avez entendu parler de ça, plusieurs campagnes de tentatives d'éradication du lapin en Australie, on est toujours, les Australiens sont toujours embêtés avec les lapins. Les lapins ne sont pas natifs d'Australie, mais quand ils y arrivent, ils trouvent tout ce qu'il faut pour pulluler. Aptitude naturelle au surpeuplement, on voit bien que les espèces ont toute cette capacité à pulluler dès lors que vous leur donnez de la ressource. Et puis, on va dire des paramètres physiques tout de même qui leur conviennent. Température, humidité, ensoleillement, voilà. Donc, toutes elles ont le potentiel à pulluler pourvu qu'elles rencontrent évidemment un certain nombre d'optimums. Mais ce que voit Charles Darwin quand il traverse des milieux naturels, non perturbés par l'homme, notamment les forêts amazoniennes brésiliennes, lorsqu'il fait son voyage entre 1831 et 1835 sur le Beagle. Qu'est-ce qu'il voit dans ces milieux non perturbés par l'homme? Voit-il une seule espèce qui a pris toute la place? Parce qu'elle aurait pullulé, justement. Eh bien non, c'est pas ce qu'il voit. Bien que chaque espèce ait comme capacité potentielle à pulluler, eh bien c'est pas ce qu'elle fait quand le milieu n'est pas perturbé par l'homme. C'est l'inverse. Moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces en coexistence. Alors ça, c'est curieux. Il y a une déduction à faire tout de suite. C'est que chacune coexiste à côté de la voisine, en dépit de la capacité de chacune, la voisine comme soi-même, à pulluler dans le milieu. Il y a une déduction qu'il faut en faire de ça. Si la coexistence se fait en dépit de la capacité de chacune à pulluler, c'est que précisément la voisine représente une limite à sa voisine. Et que précisément les facteurs sur lesquels on s'interrogeait, les facteurs, y a-t-il des facteurs comme si les horticulteurs et les éleveurs se débrouillaient dans la nature? Alors là c'est sans volonté pour le coup, il n'y a plus d'horticulteurs, il n'y a plus d'éleveurs, mais la présence des espèces voisines, voire même tous les paramètres du milieu, température, les paramètres physiques, température, humidité, ensoleillement, nature du sol, enfin tout, et bien tous ces paramètres sont finalement les facteurs limitants qui vont empêcher la pullulation. Il y a donc une sélection naturelle, mais naturelle, non intentionnée. De fait, les espèces se situent dans l'état où elles sont, limitées par les facteurs du milieu. Dit autrement, la variation propose... La variation, justement, elle provient de l'altération. Le vivant n'arrête pas de changer. Il est altéré. Alors, quand on dit qu'il est altéré, il y a déjà une connotation négative. Altéré, on devrait dire tout simplement, il change. Le vivant change parce que toute matière change. Et de ce qui ressort du changement, c'est le milieu, finalement, qui, sans l'avoir voulu, de fait, certains variants vont laisser plus de petits à la génération suivante, si le variant est héritable bien sûr, que le variant d'à côté. Finalement, le succès reproductif des variations qui apparaissent, ce succès reproductif dépend du milieu. C'est ça la sélection naturelle. Là, il y a un petit résumé classique. Voilà un exemple, une variation. Une variation, c'est sur la couleur de l'animal. Voilà des verts, voilà des jaunes. Voilà un facteur du milieu qui apparaît. Un prédateur qui ne voit que les verts, il ne voit pas les jaunes. Alors ce prédateur, il va prélever à chaque génération, tout le temps, des verts. La couleur, elle est héritable. C'est un variant héritable, la couleur. Donc vert-jaune, ça va être hérité. Aux générations suivantes, il va y avoir un peu moins de jaune dans la population, parce que les verts, à chaque fois, ils se reproduisent aussi, mais à chaque fois, ils se font prélever une partie de leur population par les prédateurs. Et au bout du compte, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus que des jaunes, parce que à force de voir la fréquence des jaunes augmenter, celle des verts se réduire, il y a une disparition des verts. Votre population, elle a changé. La différence entre Charles Darwin et Lamarck, dont vous avez peut-être entendu parler, Lamarck, c'est un Français qui, 50 ans avant, a pensé aussi la transformation des espèces. Ce petit schéma, il n'est pas anodin. Il montre une différence majeure entre Lamarck et Darwin. Deux différences majeures. La première, c'est que la conception de la transformation chez Darwin, elle est populationnelle. Les individus subissent la sélection naturelle, certes, mais si vous voulez mesurer les effets de la sélection, vous ne pouvez le mesurer qu'en termes de fréquence dans les populations. Pour Lamarck, je vous rappelle quand même que pour Lamarck, les individus devaient produire des efforts pour subvenir à leurs besoins dans les milieux. En produisant des efforts pour subvenir à leurs besoins, ils entraînaient certains organes, stimulés souvent. Par non-stimulation, ils atrophiaient d'autres organes. Et comme le fruit de ce travail, la forme de l'organe, était transmissible à la génération suivante pour Lamarck, eh bien, finalement, les descendants héritaient du travail ou du produit de l'effort des parents. Et donc, le milieu instruit la variation chez Lamarck à travers les efforts que font les organismes pour subvenir à leurs besoins. Le milieu dicte en quelque sorte quelles sont celles des variations qui vont devoir émerger. Et si on raisonne ainsi, la transformation, elle se passe au niveau individuel. Chez Lamarck, il y a une conception individuelle de la transformation. Une hérédité des caractères acquis, et puis, une variation qui apparaît aux besoins de celui qui la porte. La variation apparaît forcément pour Lamarck aux besoins de celui qui la porte, car cette variation elle est produite par l'effort que fait l'individu pour subvenir à ses besoins. Voyez ? Alors que chez Darwin, deux différences majeures, la variation n'apparaît pas nécessairement aux besoins de celui qui la porte. Il y a des variations néfastes qui apparaissent, il y a des variations neutres, et il y a des variations, on va dire, favorables. Mais favorables, de fait, c'est pas programmé, voyez. Coup de bol, quoi. Là, voyez, le variant vert, il n'est pas apparu au bénéfice du porteur du variant, puisque les verts, ils se font manger plus que les jaunes. Le variant, il apparaît indépendamment des besoins de l'organisme. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, vous avez des altérations régulières dans les populations humaines, les porteurs ne sont pas spécialement contents. Ceux qui ont un sixième doigt, sont ceux qui ont une queue à la place du coccyx, ceux qui sont albinos, ceux qui naissent aveugles, enfin vous voyez ce que je veux dire. L'altération, elle n'est pas toujours à apparaître aux besoins du porteur. Hein. Donc, la différence, elle est là. Premièrement, les variations apparaissent indépendamment des besoins du porteur. Deuxièmement, les résultats se mesurent à l'échelle de la population et pas à l'échelle de l'individu. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris la différence majeure entre les deux conceptions de la transformation, celle de Lamarck en 1809 et celle de Darwin en 1859. N'oubliez pas, une fois que j'ai dit ça, qu'une fois que la roue est tournée, elle continue de tourner. Il va y avoir des rouges qui vont apparaître là. Souvent, on vous raconte une histoire pédagogique, ce que je suis en train de faire. On n'en a pas beaucoup de temps, il faut être pédagogique, donc on simplifie. Une fois que les jaunes sont apparus, l'histoire n'est pas finie. Je vous dis que le vivant est altéré tout le temps, donc il va y avoir des rouges qui vont apparaître. Et ça va recommencer. C'est un tapis roulant, ça n'arrête pas de changer. Tout change, tout le temps. Les êtres vivants et les milieux. Parce que le milieu, lui, un jour, il va changer aussi. Le piaf qui est là, il va peut-être regarder autrement le prochain coup. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est sur un tapis roulant permanent de changement, aussi bien dans l'altération que nous subissons que dans les milieux. Qui aurait pu prévoir le tremblement de terre qui a amené le tsunami, qui a amené les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant je voudrais terminer en attirant votre attention sur un phénomène social et scientifique majeur, qui est la réduction de la pensée de l'évolution aujourd'hui à la lutte interindividuelle pour la captation des ressources. Je voudrais que vous appreniez à ne pas lire nécessairement ce que les journaux vous disent sur l'évolution, en particulier les journaux d'économie. Quand les journaux d'économie vous parlent de compétition entre les entreprises, on vous parle de darwinisme. C'est absurde, et je vais vous montrer que c'est absurde. C'est absurde parce que Charles Darwin a laissé dans l'héritage scientifique, en sciences naturelles, je ne parle pas de l'économie là, mais en sciences naturelles, il a laissé dans l'héritage culturel des grandes modalités sélectives que je vais énoncer là. C'est simple à comprendre, vous allez voir. et qui vous montre que parler de la théorie darwinienne de l'évolution aujourd'hui, ça n'est pas parler nécessairement de la compétition interindividuelle. Pousse-toi de là que je m'y mette, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour arriver à penser cela, simplement demandez-vous quels sont ceux des variants qui ont le plus, s'ils sont héritables à la génération suivante, quels sont ceux des variants qui ont le plus de chances de laisser des représentants à la génération suivante. Par quel moyen va-t-on faire plus de petits quand on est un individu ou quand on est quelques individus? Allons-y. 5 ou 6 modalités sélectives. Toutes ces modalités sélectives dont on va parler là font partie de la sélection naturelle. Donc vous allez voir que la sélection naturelle, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on en dit dans les journaux. Premièrement, ceux des variants qui vous font ressembler à votre milieu vont avoir tendance à se stabiliser dans les populations. Ben, c'est logique. C'est logique, plus vous avez tendance à ressembler au milieu, moins vos prédateurs vous voient. Et donc, moins vous subissez les prélèvements, génération après génération, des prédateurs. Ce qui explique pourquoi ce turbo ici ressemble fort au fond caillouteux. Je ne sais même pas si au fond vous le voyez, le turbo, mais quand ce turbo ressemble au fond caillouteux, sableux sur lequel il est. Ce qu'on appelle le mimétisme est le produit d'une sélection naturelle, évidemment. Deuxième modalité sélective, évidemment aussi, ceux des variants qui vous permettent d'attraper plus de ressources. Tant que les ressources ne sont pas limitées, ça ne laisse pas votre voisin. Mais il arrivera un moment où ça va léser votre voisin parce que les ressources vont être forcément limitées. La Terre n'est pas infinie. Hein. Les milieux ne sont pas infinis non plus dans leurs caractéristiques physiques. Donc il va y avoir un moment où ça va coincer. Ben oui, il y a effectivement des phénomènes de compétition inter-individuelle dans l'espèce, ceux des variants qui vous rendent plus performants dans la captation des ressources vont avoir tendance à s'accumuler, et oui, nous sommes performants dans la captation des ressources. Troisième modalité sélective, ceux des variants qui vous rendent attractifs sexuellement. Parce que je vous rappelle que laisser vos variations à la génération suivante, c'est une affaire de sexe chez les grands animaux. Et que donc, ceux des variants qui vous rendent plus attractifs vont avoir tendance à transmettre la raison par laquelle vous êtes plus attractif. D'accord? Et là, vous avez une richesse de raisonnement qui s'offre à vous, c'est que vous découvrez que les modalités sélectives se contrecarrent l'une l'autre. Et justement, que sommes-nous? Nous sommes des compromis. Nous, les biologistes, nous voyons les corps biologiques comme des compromis sélectifs. Ce qui vous a rendu attractif sexuellement ne correspond pas nécessairement à des choses qui vous permettront d'échapper aux prédateurs. C'est un compromis. Vous voyez, la queue de ce paon mâle fait plus que la taille de l'animal lui-même. Croyez-vous qu'avec une queue pareille, on échappe aux prédateurs? Il y a un compromis qui s'est mis en place, là. Au demeurant, il y a vraiment un rapport avec la sélection sexuelle. C'est que je vous rappelle quand même que des expériences qui ont été faites, on a pris des paons mâles, on les a privés de certaines plumes dans leur roue, on a transféré les plumes de Pierre à Jacques, et puis on a laissé les mâles dans le parc faire leur parade nuptiale, et on a regardé statistiquement avec qui les femelles préféraient s'accoupler. Ben, il y a un rapport statistiquement tenu entre la magnificence de la queue du mâle et le choix des femelles pour l'accouplement. La queue du paon mâle a vraiment un rapport avec le succès sexuel des porteurs de cette queue. Au demeurant, une fois qu'on a mis ça en évidence, au demeurant, vous remarquerez bien que pour échapper à un prédateur, c'est pas ce qu'on fait de mieux. D'ailleurs, des gens ont pensé que la queue du paon a dû apparaître temporairement dans des milieux où les pressions de prédation devaient être relativement faibles. Peut-être des îles, ou des milieux isolés, ou des milieux forestiers. Donc vous voyez que cette idée de compromis, alors ça c'est important, cette idée de compromis, nos corps biologiques ne sont pas des corps parfaits. Nous sommes le fruit de compromis entre différentes raisons sélectives, si vous voulez. Autre modalité par lesquelles on laisse plus de petits la génération suivante, profiter des autres. Si vous êtes une espèce que vous vous associez avec une autre espèce, mais dans un bénéfice qui n'est pas partagé, nous qualifions ça, nous les scientifiques, de parasitisme. Bon, là, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous avez tous eu des puces. Personne, bon alors des poux, allez. À l'école élémentaire, on a tous eu des poux. Si vous avez eu des poux une fois dans votre vie, vous savez ce que c'est qu'une association d'espèces à bénéfice non partagé. Hein? Bon, là j'ai mis un ténia, mais j'aurais dû mettre un poux, et vous comprenez ce que c'est qu'un parasite. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un continuum entre le parasite et le symbiote. Les associations d'espèces, c'est une règle générale dans la vie. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. On vous enseigne, on nous a enseigné un corps unitaire, conçu comme parfait, parce que notre culture nous l'enseigne, parce que la médecine nous enseigne ça. Notre corps n'est ni unitaire ni parfait. Il est peut-être unitaire fonctionnellement, et encore on pourrait en discuter. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que vous hébergez dans votre corps plus de cellules qui ne vous appartiennent pas que de cellules qui vous appartiennent. Il faut que vous le sachiez tout de même, votre tube digestif est un lieu où se met en place une coopération entre espèces qu'on appelle une symbiose. Une association entre espèces à bénéfice mutuel. Vous ne pourriez pas digérer vos aliments sans la flore intestinale que vous hébergez. Alors si vous buvez de l'eau distillée, ce que je ne vous conseille pas de faire, hein, surtout pas, vous flinguez votre flore intestinale et vous risquez vous-même de mourir. Hein. Donc cette association, elle n'est pas facultative, là, elle est obligatoire. De même, je vais même plus loin, c'est général, vous n'imaginez même pas à quel point c'est général, il n'y a pas un animal qui existe qui ne soit pas symbiotique. Il n'y a pas un seul végétal qui existe qui ne soit pas une association d'espèces. Je vous rappelle tout de même que ces petites centrales énergétiques que vous trouvez dans les cellules, qu'on appelle les mitochondries, eh bien, elles parlent le langage génétique des bactéries. Quand vous lisez l'ADN de ce machin-là, c'est écrit en bactéries, c'est pas écrit en eucaryotes. Ça cause bactéries, quoi. Les chloroplastes par lesquels les plantes font la photosynthèse sont aussi d'anciennes bactéries intégrées à une cellule eucaryote, voici plus de 2 milliards d'années. Un peu moins que ça quand même, mais enfin bon, c'est très vieux, une association d'espèces très ancienne dont nous sommes les héritiers finalement. Donc au cœur même de vos cellules, vous portez la trace d'anciennes symbioses, et dans votre tube digestif vous êtes symbiose. Alors je vous parle même pas de votre peau, ça vous le savez rarement. Au demeurant, ne vous lavez tout de même pas trop, parce que vous savez ce que vous risquez si vous vous lavez trop. Votre peau héberge ce qu'on appelle une flore bactérienne résidente qui vous protège des agresseurs qui, eux, ne négocient pas, les champignons, par exemple. Vous avez des parasites qui ne négocient pas. Les symbiotes, eux, ont négocié depuis longtemps. Si vous vous lavez trop, vous détruisez la flore symbiotique de votre peau et vous autorisez les parasites à venir s'installer. Les gens qui se lavent trop, qui se mettent trop de détergent sur la peau plusieurs fois par jour, eh bien, sont des gens qui sont envahis par les champignons. Alors, comme ils ne comprennent pas pourquoi, c'est une boucle infernale, puisqu'ils se disent « j'ai des champignons, il faut que je me lave ». Ben oui, mais le problème, c'est que tu as des champignons parce que tu te laves trop, justement. Donc, il faut comprendre cette histoire de symbiose. L'autre n'est pas sale. L'autre, ils peuvent être votre partenaire de vie. Ça, on n'en parle pas assez dans l'évolution, et pourtant, c'est un phénomène sélectif. Coopérer dans l'espèce. Et là, je vais appuyer lourdement. La coopération dans l'espèce, l'entraide. Alors, la symbiose, on l'a vu. Coopération inter-espèce. Mais coopération dans l'espèce, qu'on appelle l'entraide, le sentiment de compassion, l'aide des mères portées aux jeunes, l'aide portée aux plus vieux, ou aux plus anciens, ou aux faibles, ou aux malades. Ces comportements-là, ces comportements qui assurent la cohésion sociale, et pas que chez l'homme, sont des comportements qui ont été sélectionnés. Pourquoi ? Dit de manière très simple, les populations qui pratiquent ces comportements ont un succès reproductif différentiel par rapport à celles qui ne le comportent pas, supérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils font mieux face aux aléas de l'environnement. Allez, je vous le fais vite, l'union fait la force quelque part, c'est que des comportements qui assurent la cohésion du groupe vous rendent plus fort face aux aléas de l'environnement en tant que groupe, plutôt que si vous êtes tout seul à vous défendre devant des forces qui vous dépassent. Je le fais vite, hein. Mais donc l'idée, quelque part, c'est que les comportements d'entraide et de compassion trouvent une origine naturelle chez Darwin et aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Mais, contrecarre, vous voyez qu'on est encore dans des histoires de compromis. Ces forces sélectives, elles ne sont pas unitaires. Elles peuvent se contrecarrer les unes les autres. Autant il y avait un compromis entre la sélection sexuelle et le mimétisme, ben là on trouve un compromis à faire entre la compétition inter-individuelle, dont je ne nie pas qu'elle existe. Elle existe, mais c'est compliqué. Elle se mélange avec d'autres nécessités, qui est la coopération intraspécifique, qui ne concerne pas que l'homme, hein. Insectes sociaux, beaucoup de mammifères sociaux aussi, enfin bon, je ne rentre pas dans la multiplicité des exemples, car mon temps est bientôt écoulé. Donc, je voudrais simplement vous dire, en conclusion, que le biologiste ne voit pas le biologiste de l'évolution, enfin celui qui a une biologie ancrée dans son cadre théorique et disciplinaire, ne voit pas le corps humain ou autre d'ailleurs comme une entité parfaite. C'est un corps fait de compromis historiques. Et je voudrais terminer sur cette histoire de compromis par le fameux triangle d'Adolf Sellacher, qui est un paléontologiste allemand, que Gould, Stephen Jay Gould, le fameux paléontologue américain, et Richard Lewontin ont refait surgir en quelque sorte. Sellacher disait, si vous voulez comprendre pourquoi un organe est présent chez un organisme, intéressez-vous effectivement à la sélection naturelle. Cet organe est peut-être là parce qu'il a apporté un avantage sélectif à un moment de l'histoire. Peut-être qu'il en apporte un toujours d'ailleurs. Mais n'oubliez jamais que les corps ne sont pas que cela. Les corps biologiques se développent dans des contraintes chimiques et physiques. La biologie n'échappe pas aux lois de la physique et de la chimie. J'ai vu une une de journal encore ce matin où on découvre que la biologie serait quantique. Ah oui, parce que la biologie était censée, les corps biologiques étaient se développer en dehors des lois de la physique. L'être biologique est un être physique. S'il y a des phénomènes physiques, ils ont peut-être, ils font dépendre en quelque sorte de leurs phénomènes un certain nombre de phénomènes biologiques. L'embryon se déploie dans un contexte architectural où s'expriment effectivement des lois de la physique et celles de la chimie. D'autre part, les corps peuvent être aussi les témoins de l'histoire. Et il y a des choses que vous avez acquises il y a très longtemps, enfin quand je dis vous, je parle vite, votre lignage, des choses qui sont apparues dans votre lignage il y a très 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 longtemps, dont vous avez hérité, mais dont les raisons sélectives ne sont plus là aujourd'hui. Alors, des exemples tout de suite. Contrainte embryonnaire. Vous portez sur vous des organes qui ne sont pas là pour une raison sélective particulière. Il faut savoir qu'il y a des alternatives à la sélection naturelle, hein, aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez comprendre pourquoi les hommes, enfin les Homo sapiens mâles, a des tétons. À quoi sert le téton chez l'homme? Je vous montre pas, vous en avez un. Allez-y, tâtez, vous allez voir. Eh bien, vous ne trouverez pas de raison sélective pour expliquer directement sur l'organe en question, pour expliquer pourquoi les hommes ont un téton, ils s'en servent pas. De même, polémique dans les années 70, pourquoi les femmes ont-elles un clitoris? Il sert pas à faire les bébés, le clitoris, que je sache. Enfin, je le fais vite, hein. Mais les femmes ont un clitoris pour la même raison que celle pour laquelle les hommes ont un téton. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau sélectif, il n'est pas sur l'organe que vous regardez. Il est ailleurs. Les raisons du téton de l'homme, bah, c'est le sein de la femme. Et puis les raisons du clitoris de la femme, c'est le pénis de l'homme. C'est symétrique. C'est-à-dire que l'embryon a des règles de construction architecturale. Ce qui fait force sélective dans un sexe ne le fait pas nécessairement dans l'autre sexe. Et donc, nous, on a un téton par atavisme architectural dans la construction de l'embryon masculin. Et les filles ont un clitoris par atavisme architectural dans la construction de l'embryon féminin. Alors, des trucs qui ne servent à rien, ou qui vous embêtent même, qui ne sont pas nécessairement liés à la sélection naturelle. C'est le dernier exemple. Votre trajet du nerf phrénique, ce nerf-là. Alors, si vous avez le hoquet, par exemple, est-ce qu'il y a une raison sélective au hoquet? Quel avantage reproductif vous pouvez avoir à avoir le hoquet, vous voyez? Aucun. Le hoquet, il vient d'une altération de ce nerf, ici. Ce nerf, il est très bizarre. Il n'est pas décoratif, il est vraiment vital, ce nerf. Il innerve, c'est un nerf moteur qui innerve le diaphragme. Si votre diaphragme se bloque, vous ne pouvez plus ventiler. Le diaphragme, c'est le muscle qui vous fait ouvrir votre cage thoracique pour ventiler. Si vous ne ventilez plus, vous ne respirez plus. Donc, la plupart du temps, les gens qui sont bloqués du diaphragme meurent d'anoxie, hein. Et l'oxygène n'arrive plus. Bon. Ce nerf n'est donc pas décoratif. Néanmoins, il se branche dans la moelle épinière, non pas à la vertèbre qui est juste en face, ici, mais il va se brancher très loin. Entre nous, si un ingénieur avait construit un corps humain, il serait quand même débrouillé pour faire le moins de trajet à ce nerf-là. Si vous êtes dans une optique d'optimisation fonctionnelle, vous vous dites, je branche le nerf juste à la vertèbre derrière, là, et hop, je vais faire monter ça au centre nerveux par la moelle épinière. Ben non, le nerf, il va se brancher au niveau de la première vertèbre cervicale. Alors pour faire ça, il contourne le cœur, il traverse la cage thoracique, il passe sous cette veine ici, et il contourne le cou, il passe à côté du thymus, et il va se brancher là-haut. Comme le trajet est long, de temps en temps, ce nerf s'irrite, et comme ce nerf s'irrite, vous avez des contractions involontaires du diaphragme, qui est le hoquet, justement. Hein. Alors, à quoi ça sert? Ce trajet que vous voyez là est un trajet historique. C'est que le bloc musculaire qui est là, il y a 360 millions d'années, ce bloc musculaire, il était sous le crâne. Chez des animaux qui ressemblaient à des, entre guillemets, poissons, eh bien, ce bloc musculaire était dans la corbeille branchiale, et il y a 360 millions d'années, les vertébrés ont accès à la terre ferme, et au moment où les pattes et la terre ferme sont accessibles, eh bien, il y a la naissance du cou, le bloc musculaire recule de la corbeille branchiale en arrière du cou, et dans les à peu près 200 millions d'années qui suivent, de proche en proche, ce bloc musculaire ne cesse de reculer en arrière de la cage thoracique, mais le nerf, lui, il suit. Le nerf, il suit, et ce trajet-là, c'est un trajet historique, en fait. C'est pas un trajet fonctionnel au sens où on aurait construit un corps humain pour le mieux du fonctionnel. Bon, on a longtemps polémiqué sur l'appendice au bout de l'intestin. Quand elle s'infecte, vous avez ce qu'on appelle une appendicite. Ça peut tourner vinaigre. Bon, aujourd'hui, on sait opérer ça vite. Mais il y a longtemps eu une polémique pour savoir si l'appendice était utile ou pas. Est-ce qu'il y avait une fonction? Alors, il y a des gens qui parlent d'une fonction immunitaire. Donc, du coup, l'exemple est un peu moins, pédagogique. Votre colonne vertébrale, et j'en terminerai là. Votre colonne vertébrale, c'est aussi l'héritage de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes assis pour m'écouter? On serait des oiseaux, on serait des dinosaures théropodes, vous seriez debout, tranquille, sur vos deux pattes. Notre bipédie, elle est vraiment pourrie. Vous êtes obligé de rester assis pour m'écouter, parce que vous ne tenez pas une heure debout. Moi, si, hein, regardez. Vous ne tenez pas une heure debout. Pourquoi? Votre colonne vertébrale, avec la courbure qu'elle a, elle nous vient d'un héritage qui n'est pas un héritage d'une colonne vertébrale verticale en compression, mais en extension. Le registre locomoteur du dernier ancêtre commun aux anthropoïdes, chimpanzés, gorilles, hommes, gibbons, orang-outans, l'ancêtre commun avait un répertoire locomoteur multiple. Il pratiquait beaucoup la brachiation. Vous savez ce que c'est que la brachiation? C'est se suspendre aux branches des arbres par les bras. Les gibbons font très bien ça. Et d'ailleurs, c'est leur répertoire locomoteur principal, le gibbon. Mais n'oubliez jamais qu'un gibbon, une fois qu'il est à terre, il marche comme vous et moi. Il marche sur ses deux pattes arrière. Hein. Le chimpanzé, lui, il s'est plus spécialisé sur le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges. Mais la verticalité de notre colonne vertébrale nous vient, alors aujourd'hui, beaucoup plus probablement d'ancêtres brachiateurs plutôt que d'ancêtres de savane. C'est un peu fini, hein, le scénario du mec qui était à quatre pattes et qui se redresse. Hein. Ça, c'est... Faites venir Pascal Pic, hein, le prochain coup, il vous racontera ça mieux que moi. Le registre locomoteur de l'ancêtre, il est brachiateur, peut-être majoritairement. Cette colonne vertébrale, elle est verticale dans l'évolution, d'abord en extension. Si vous vous sustentez par les bras, votre colonne vertébrale, elle n'a pas de problème à être verticale. Elle ne fait pas d'effort, enfin, quasiment pas. Elle est en extension. Mais quand on se retrouve à marcher sur ses pieds, eh bien la colonne vertébrale porte le corps, du coup, et elle se retrouve en compression. Ça veut dire que vous avez du matin au soir une compression de la colonne vertébrale, vos disques vertébraux l'aiment pas beaucoup, et puis surtout, notre bipédie est extrêmement dépensière en énergie. Et c'est pour ça qu'on fatigue vite, nous, les humains, nous sommes des bipèdes permanents, mais malgré tout, nous fatiguons vite, nous avons une bipédie, qui n'est, l'évolution, c'est comparer les êtres vivants. Comparons avec d'autres êtres vivants, on a la plus mauvaise bipédie qui soit. Je vous garantis que les oiseaux, pour se tenir debout, dépensent moins d'énergie que nous. La colonne vertébrale n'est pas dans la même direction, l'anatomie n'est pas non plus la même. C'est une anatomie dinosaurienne, de dinosaures théropodes, Et les théropodes ont des, comment dire, ont une colonne vertébrale beaucoup plus oblique, je ne vais pas dire horizontale, mais presque, avec un balancier qui est la queue et la tête à l'avant. Et les théropodes se débrouillent mieux avec la bipédie que nous. Bon, selon mon discours, pour vous dire, l'évolutionniste s'est détaché du discours sur le corps parfait. Parce que la notion de perfection n'est pas une notion scientifique. C'est pas qu'on veuille embêter les religions ou les médecins, j'en sais rien. C'est pas ça, c'est que simplement c'est pas dans le contrat. La perfection, c'est un discours de valeur, c'est pas un discours de fait. Dans les faits, vous mesurez des performances. Alors on peut dire, la colonne vertébrale est plus performante, enfin la bipédie humaine est moins performante que la bipédie des dinosaures, mais il n'y a pas de volonté derrière ça de dégrader l'homme ou quoi que ce soit, c'est simplement avoir un discours naturaliste sur la nature. On va passer aux questions. J'ai une petite figure qui est la figure de conclusion. Qui est finalement, pourquoi je vous parlais au début, pourquoi l'évolution rencontre des problèmes dans le public. Parce que je vous disais, elle dit des choses sur un terrain qui est déjà occupé, en fait. Enfin, nous, les scientifiques, nous disons des choses sur des terrains, malheureusement. Si j'avais voulu être peinard, j'aurais été chimiste. Si, à la limite, on nous aurait reproché l'industrie chimique, mais bon, les rapports avec l'industrie, c'est un autre sujet. C'est pas un sujet philosophique, c'est un sujet de société. Là, l'évolution, le problème qu'on a, c'est que nous, les scientifiques, on est dans un périmètre à l'intérieur duquel nous suivons des règles du jeu, et qu'à l'extérieur de ce périmètre, individuellement, chacun peut être relié à une religion de son choix, mais ceci n'interfère pas dans le jeu qu'on joue dans la cour, là. Il y a des règles du jeu sur l'explication du monde, que je pourrais vous énoncer si ça vous intéresse. Il y a des règles du jeu ici. L'espace scientifique, l'espace collectif scientifique, par lequel nous validons des savoirs sur la nature, cet espace, il est de fait laïque, c'est-à-dire que les options métaphysiques individuelles de chacun n'interfèrent pas dans l'espace du laboratoire. Je peux vous le dire de témoignage, j'ai fait une enquête il y a quelques années, il n'y avait pas moins de 4 options métaphysiques distinctes dans le laboratoire dans lequel j'appartenais. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des déistes, il y avait des athées. Eh bien, ça n'interférait pas dans la vie du laboratoire parce que c'était hors champ. Quand on publie nos résultats, scientifiques, nous n'avons pas besoin de faire paraître sur la publication nos options métaphysiques personnelles. D'ailleurs, si un journal demandait à faire analyser un article et que de telles mentions étaient faites, le papier serait refusé immédiatement. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le contrat de travail que j'ai décrit n'est pas intentionné sur le plan métaphysique, et surtout, les représentations métaphysiques n'ont pas droit de citer dans l'espace du laboratoire. Ça n'empêche pas que chacun puisse être, évidemment, dans le registre privé, se rattache à des options métaphysiques de son choix. Le problème qu'on a en évolution, c'est que certains partis politiques ou partis religieux veulent rigidifier le lien entre ce qui est produit là et leur vision du monde. C'est-à-dire qu'ils veulent que les sciences produisent des résultats qui les confortent. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est qu'il y a...